Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 12 janvier 2013, avec le micro c'est mieux. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Janot Dead, et à 17h FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le magazine sur la peinture moderne que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Alors dans ce cas-là, pourquoi tu ne t'essaies pas à la science-fiction? Après tout, il pourrait avoir, je ne sais pas, plein de choses à explorer dans l'univers jusqu'au bout du fion. L'honneur est sauf, il y a une rime.
Et quelle rime? Pauvre, hein, je tiens à la signaler, mais bon...
Radio FMR présente... Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Daskreech. Et la participation exceptionnelle de JB.
Je fais courir le générique, hein, c'est exprès. Mais je crois pas qu'il sera à l'heure.
Amis auditeurs, bonjour Daskreech, comment ça va?
Écoute, plutôt bien. Bonjour Ultimatum.
Eh bien, écoute, c'est la forme. Du sport et à l'étage.
Bonjour du sport.
En train de préparer le café peut-être.
Comme d'hab. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio FMR, une radio alternative. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et des fois on a consacré une spéciale entière autour d'un invité.
Eh ben oui, et l'invité, il a eu un petit problème de géolocalisation, donc il arrive.
Non mais je le comprends à la limite. Hein. L'ennui c'est que... une sacrée distance entre les deux, donc on va voir comment il va se démerder.
On va avoir des explications en direct avec lui tout à l'heure.
Voilà, et on est à une période de la mobilité, il doit être l'un des rares à ne pas avoir de téléphone portable.
Eh, ça aide pas. Alors du coup,
les forfaits à 2€ et tout ça, pensez-vous.
On va peut-être revenir à notre ancienne tradition de mettre un morceau musical pour l'introduction.
Moi, ce que je propose, c'est de faire ce qu'on a complètement zappé la semaine dernière,
à savoir faire
un agenda.
Oui, avec quoi? Tu as un agenda, de quoi faire un agenda?
J'ai un agenda. Je te rappelle donc, c'est à partir de cette semaine à la médiathèque de Condon dans le Gers. In the Mediatheque of Preservatives in the Gers.
Désolé.
Du 16 janvier jusqu'au 14 février, une exposition à la découverte des mangas. Donc peut-être il y a quelque chose d'intéressant qui se fait et qui se passe. Donc c'est à voir. En tout cas, il y a des gens plutôt sérieux derrière. Donc ce sera toujours intéressant de voir justement s'ils s'intéressent uniquement au mainstream ou s'ils s'ouvrent un petit peu plus sur l'ensemble de la production actuelle ou s'ils font un retour arrière. Depuis les origines, par exemple au Kusai et tout le reste, on verra ça. Il y a aussi le 40e Festival International de la Bande Dessinée à Angoulême.
Avec Jean-Claude Denis, président du jury cette année.
Donc on verra ce que cela va donner, issu de Albin Michel. Il travaille aussi de temps à autre, il fait des illustrations pour le Canard Enchaîné, si je me trompe. C'est à voir surtout si ce sera très ouvert sur la bande dessinée indépendante, comics, manga, parce que la dernière fois qu'on a eu des auteurs dans ce genre-là, malheureusement, il y a eu une restriction du programme à la demande du président. Bon, on verra. Je ne serai pas sur place, néanmoins nous serons en direct, sur place, intégralement.
Quand tu dis nous, tu dis l'émission ou tu... non?
Je dis que vous serez en direct,
oui,
s'il
voilà.
vous plaît, voilà. émission probablement avancée d'une petite demi-heure, puisqu'il y aura un commentaire technique sur comment survivre à un festival à la ville d'Angoulême par les observateurs extérieurs, avec un commentaire sportif et tout le reste, donc des questions médicales. on verra ce que l'on va faire à partir de là. Il y aura le 6e festival Made in Asia du 7 au 23 février. C'était organisé par l'association Chin Chin, Radio FMR est partenaire, donc le supplément week-end aussi en théorie. Cette année, puisqu'à chaque année il y a...
Hey, du 7 au 23 février, cette fois-ci ça va pas se chevaucher avec Angoulême, on va pouvoir faire les deux, c'est trop bien.
C'est trop bien, ouais, c'est ouf, hein, parce qu'en plus Angoulême c'est premier week-end de février cette année. Oui. Cette année le pays invité c'est le Japon et ce sera sous le haut patronage de Monsieur Ichiro Komatsu qui est ambassadeur du Japon en France, s'il vous plaît.
Ah oui, quand même.
Voilà, ça reste à voir. Alors comme d'habitude, il y aura tout, il y aura les expositions sur la poterie, sur la danse, sur de la peinture. Il y avait des ateliers couture l'an dernier. Il y aura bien évidemment, il y aura des films qui seront présentés. Donc tout cela, le programme entier, vient d'être publié en fait sur le site de l'association Chin Chin. On a mis le lien d'ailleurs ce matin si je me trompe, donc hop, je suis en train de l'agrandir, ouais, parce qu'en fait je le découvre en même temps que vous. Donc il y aura de la danse contemporaine avec la compagnie Caterina et Carlota Sagna. Il y aura de l'art moderne, il y aura du théâtre bien sûr, il y aura des expositions, de la photographie. Il y aura bien évidemment énormément de conférences. Il y aura par exemple une conférence sur intitulée « Blessure atomique de Hiroshima à Fukushima », puisque en fait il y aura une thématique autour de la notion du risque au Japon. On parlera aussi bien de nature que de société. Ce sera vraiment intéressant de ce côté-là. Ce sera illustré notamment par le film « L'île nue » de Kaneto Shinindo, qui date de 1960, donc qui parle justement de cette thématique-là. Les années d'or du Japon, les années 50, donc c'est un cycle qui est prévu à la Cinémathèque de Toulouse. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Bien évidemment, il y aura de la Japanimation et du manga, notamment avec les projections autour des studios Ghibli, Kiki la petite sorcière, Princesse Mononoke, Ponyo sur la falaise. Des ciné-goûtés, donc allez-y,
ah oui,
avec
les petits
mioches. Ouais, ça va être sympa, je pense. Il y aura des lectures à la librairie Ombre Blanche. Il y aura plein de choses. On aura le temps, à mon avis, de débroussailler tout ça. Bien évidemment, l'Alliance française fait partie du lot et j'espère qu'on aura les organisateurs qui viendront. Ça va être un peu bizarre parce que ce sera en plein milieu du débrief d'Angoulême pour nous. Et en général, ça nous prend deux émissions après le festival. À mon avis, on va devoir un petit peu se débrouiller de ce côté-là.
Oui, du sport. Bonjour.
Oui, non, je voulais rajouter quelque chose dans
un seul sucre pour moi, merci.
Je voulais rajouter quelque chose dans l'agenda, c'est qu'il y a des dédicaces aujourd'hui chez Gilbert Joseph. Oui. C'est Dominique Delpirou qui dédicace son dernier bouquin en compagnie d'un autre auteur. Donc, ils sont deux auteurs. Bon, alors c'est plutôt du polar. Hein, et ça se passe à Gilbert Joseph, je crois, à partir de 15h cet après-midi.
Ma foi, voilà qui fait un programme intéressant. Ce sera parce que c'est vrai qu'on est le premier samedi des soldes. Ce serait bien de... Je vous rappelle que dans une librairie, il n'y a pas de solde.
Les disques, c'est pareil.
Voilà, donc vous avez une chance de pouvoir survivre à la foule, parce que Gilbert Joseph, c'est en plein, tu vois, dans le quartier le Capitole, le quartier passant, et en plus, rue piétonne, folie absolue, quoi. Vaut mieux, quand même, des fois, faut s'échapper. C'est un peu comme le samedi au Festival d'Angoulême. On essaie de trouver un endroit au calme, tranquille, et nous, on a trouvé un prétexte, on fait une émission de radio, donc... Voilà, on salue d'ailleurs toute l'équipe du Conseil Général de la Charente, excusez-moi, Philippe Lacueil notamment, pour renouveler cette opération qui est chaque année vraiment intéressante et vraiment passionnante. Duce !
Oui ?
Ma foi !
On respire un peu là, avant ?
Ouais.
Non, je sais pas. Non, tu veux pas ? Il veut pas. Bon.
Qu'est-ce que tu veux respirer avec, franchement, les bouquins qu'il a sous les yeux ?
Je vais faire le pied de grue, moi.
Non, mais j'ai laissé la porte ouverte.
D'accord. Alors on va quand même vous expliquer. Bien évidemment, on avait axé l'essentiel de notre contenu autour d'un invité qui est à la bourre. Et la semaine dernière, quand même, on avait dit qu'on avait quasi rien et on avait totalement débordé.
Bah ouais.
Au point qu'on a dû sabrer, en fait, une chronique. Ça nous arrive de temps en temps. C'est toujours intéressant quand même. C'est comme la vie d'un journal, en fait. Hein. C'est quelque chose que l'on apprend quand on fait du journalisme. C'est que si on ne se bat pas pour arriver à placer un article dans un journal, ça veut dire que le journal n'a pas de raison d'exister parce que son contenu est trop programmé à l'avance. Donc il n'y a pas de vie, il n'y a pas de passion derrière. Et là, et ben voilà, donc heureusement, donc on a cette possibilité que du sport nous offre. C'est qu'il avait déjà écrit la chronique pour cette semaine, du coup. Dus, ma foi, tu m'as demandé une prog musicale des années 30 et je ne l'ai pas sous les yeux.
Ah, parce alors, que tu vas attaquer le bouquin là.
Oh oui, le bouquin, allons-y.
Ok, d'accord. Ok, ben. Alors la semaine dernière, je voulais vous faire le dernier Michael Connelly, The Black Box.
Alors du coup, t'avais dit que tu le chroniquerais pas aujourd'hui parce que tu t'en souviendrais plus.
Voilà, c'est ça quoi. Alors bon, si vous voulez savoir, vous allez sur le blog Monsieur du Sport et puis ça y est, oui, c'est en ligne.
Donc c'est, rappelle l'URL, mr.dusport.com.
Voilà, tu vas sur Google, tu tapes
non, supplément
MR du sport, MR du sport
en
tout attaché, en minuscule. Et c'est la troisième qui apparaît, je crois, le deuxième.
Alors
ou la
non,
troisième.
Parce que ça peut changer. Sinon, vous allez sur supplementweekend.fr et vous tapez dans à droite, il y a nos blogs.
Je savais qu'il
y a marqué du sport, voilà. Et c'est beaucoup plus simple. Et vous aurez donc cette chronique de The Black Box de Michael Connelly, sortie chez Orion.
Chez Orion,
Books.
Ouais.
Merci du sport pour cette chronique cross média.
Voilà, ok. Bon, bah, vous y perdez pas au change parce que le bouquin que je vous chronique aujourd'hui, bah, c'est également un polar et c'est également en VO, donc ça le fait, quoi. Et il s'agit du nouveau Dennis Lehane. Dennis Lehane, la dernière fois que je vous en avais parlé, eh bien, c'était à l'occasion de ce gros pavé qu'il avait sorti qui s'appelle Un pays à l'aube en français ou The Given Day. Titre original.
Lehane, c'est Shutter Island, c'est ça ?
Shutter Island, ouais. D'ailleurs, sur le titre, il y a même marqué Best-selling author of Shutter Island and The Given Day. Alors, The Given Day, un pays à l'aube, ici en France, il est, à mon avis, à part les amateurs, bien entendu, il n'est pas trop connu, hein, de toute façon. Et c'était le premier d'une trilogie que Dennis Lehane écrit et va terminer avec le troisième qui n'est pas encore sorti. Donc une trilogie qui concerne bien une famille et qui concerne également ben, un petit peu l'histoire de la ville de Boston à la fin de la Première Guerre mondiale. Dans The Given Day, eh bien, on était en 1919 et eh bien, on s'attachait surtout à suivre les pas du premier fiston de la famille Coughlin, une famille irlandaise dont le papa était un mec bien placé dans la police. Le fiston également, mais à cette époque-là, juste après la guerre, il y a eu des émeutes terribles, mais des trucs énormes. Bon, comme souvent, il y en a eu aux États-Unis d'ailleurs au siècle dernier et d'ailleurs au 19e siècle. Hein. Il faut dire que les luttes politiques aux États-Unis, eh bien, sont nettement plus sanglantes que ce que nous on a pu connaître ici en France ou voire même en Europe, parce que bon bah les briseurs de grève, eux, n'hésitaient pas bah, carrément à rentrer dans le tas, voire à tirer à vue.
Oui, donc, oui, la police s'était payée pour. Hein,
non, c'était pas la police. Il n'y avait pas de police. C'était non, mais... des jaunes qui étaient payés par les boîtes. C'était des agences privées, genre Pinkerton.
Oui.
Donc voilà. Hein, mm. C'est-à-dire bon bah, il n'y avait pas tellement de. C'est un petit peu sans loi quoi, hein, de toute façon quoi. Et justement, les travailleurs gueulaient pour qu'il y ait un petit peu plus de régulation, plus de loi dans leur travail, augmentation des salaires, enfin réduction du temps de
tu
travail.
Tu vois, c'est là
des
que
choses,
j'aimerais.
Des choses qui sont encore actuelles d'ailleurs.
C'est,
hein.
C'est là que j'aimerais pouvoir faire un lien en direct avec une émission qui est passée sur France Culture sur le sujet en décembre dernier, qui était super bien justement sur les débuts de l'agence Pinkerton et en tant que briseuse de grève. Et ils en avaient parlé pendant une bonne demi-heure. C'était
ah,
super
oui,
passionnant.
Oui, oui. Alors, en France. Alors, moi, la traduction, elle va être vachement rigolote parce que The Given Day, donc le premier bouquin de cette trilogie, a été traduit Un pays à l'aube. Et sachant que le deuxième, celui que je vais vous chroniquer, s'appelle Live by Night, donc on voit bien hein, la différence hein, entre le jour et la nuit, Et c'est exactement ce qui se passe, parce que dans le premier tome, eh bien, on a eh bien, ce qui va se passer pour un des fils d'Ancothine qui va être un petit peu déçu de ce qui se passe, et, mais qui est du bon côté, on va dire, alors que dans Live by Night, eh bien, c'est tout à fait le contraire. C'est le plus jeune fils de la famille Coughlin, celui qui, dans le premier, n'a que 8 ou 9 ans, donc n'intervient pas du tout de façon active dans le premier The Given Day, et qui là, eh bien, on a fait un petit bond dans le temps, eh bien, se retrouve à être un petit jeune qui a 20 balais maintenant. On est presque à la fin des années 20 et lui ben, il a choisi un petit peu le mauvais côté, c'est-à-dire que bon ben, il va commencer à l'âge de 12 ans par faire des petits braquages, des petits trucs comme ça quoi, genre des petits cambriolages et tout, et à l'âge de 20 ans c'est déjà un type qui a commis plusieurs braquages avec sa bande de potes. Ils sont potes depuis avec des potes qui sont italiens d'ailleurs, hein, de frangins italiens. Lui, il est irlandais. Alors c'est très important, hein, de toute façon, quoi, cette histoire de provenance, surtout à cette période de l'histoire des États-Unis, parce que bien, il y a encore Ellis Island, il y a encore des vagues d'immigration, quelques vagues d'immigration, hein, suite aux différents troubles qu'il y a en Europe. Et il va encore y en avoir d'ailleurs avant la Seconde Guerre mondiale. On sait bien pourquoi. Alors là, le petit Joe Coughlin, eh bien, va se faire un nom, hein, à Boston comme étant un bon homme de main, mais malheureusement, enfin on peut dire malheureusement, bah, il va commettre un braquage qu'il n'aurait pas dû commettre, parce que eh bien, il va aller braquer un tripot clandestin qui appartient à un des boss blancs de la ville de Boston. Et ça, bah, ok, a priori, personne ne devrait savoir que c'est lui qui a commis ce braquage, mais pendant ce braquage, eh bien, il va carrément flasher sur une nana, une des serveuses du tripot, et il va la rencontrer par la suite, va s'en suivre une petite histoire d'amour et tout, et va s'en suivre également bien aussi, ben, on va dire, un retour de bâton assez douloureux, on va dire, pour le petit Joe Coughlin. Joe Coughlin qui bon, bah, va faire ses années de tôle, et pendant ses années de tôle, eh bien, il va se retrouver sous la férule, on va dire, d'un des grands caïds de ce qui s'appelait pas encore la mafia à l'époque, mais c'était déjà un gang tenu par un grand capot italien. Voilà, j'ai plus de micro, donc...
Moi non plus.
Voilà. Ah, il a poussé un bouton qu'il fallait pas.
Ouais, non, mais c'est...
Le Joe va quand même relativement bien s'en sortir, mais par contre, il va devoir s'exiler, il va devoir se barrer de Boston, il est persona non grata à Boston, et il va, on va dire... un petit peu s'occuper des affaires de cette famille italienne, la famille Pescatore, mais il va prendre, on va dire, un petit peu la division régionale qui se passe en Floride, c'est-à-dire du côté de Miami, pas exactement à Miami, plutôt à Tampa. Il va essayer de réguler un petit peu tous les trafics qu'il peut y avoir. Je rappelle qu'à cette époque, on est en pleine prohibition, et donc ce qui fonctionne le mieux, bien entendu, c'est le trafic d'alcool, c'est la fabrication d'alcool, et le transport, l'importation et tout ça. Sachant que, eh bien, à l'époque, il y avait deux sortes d'alcool qui marchaient très très fort. Au nord, eh bien sûr, c'est le whisky, bien entendu. Alors, le whisky qu'on fabriquait dans le Kentucky, dans les états, on va dire, ruraux, qui sont pas trop loin, qui sont quand même dans le nord des États-Unis, dans le nord-est des États-Unis, ou alors on importait le rhum canadien, parce qu'au Canada, bah, il n'y avait pas de prohibition, et du côté du sud, eh bien, on fabriquait le rhum, parce que eh bien, du côté de Cuba, il n'y a pas de problème, Cuba n'est pas loin des côtes de la Floride, donc les bateaux pouvaient traverser tranquille. Et les Cubains déjà exilés, eh bien, sur la Floride, amenaient leur savoir-faire en matière de fabrication du rhum clandestin. Et donc, le petit Joe Coughlin va devenir carrément le chef, le patron, on va dire, de cette division régionale de Floride en ce qui concerne le trafic du rhum. Il va grandir. Et bon, on peut dire que, sans dévoiler la fin, bon, ça se passe pas trop mal pour lui, hein, mais par contre, eh bien, il va devoir passer par des compromissions, des trahisons, enfin des trucs pas possibles. Là, encore, c'est dans ce bouquin, c'est la preuve que bon, bah, quand on vit du mauvais côté, on va dire, de la loi, eh bien, il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une loi, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait, eh bien, un sens de l'honneur, parce que ça n'existe pas. Le pote d'une vie de tous les jours peut très bien te trahir le lendemain parce que ça va servir ses intérêts. Alors, juste pour vous citer deux petites phrases extraites du bouquin. Tout d'abord, Joe qui dit assez rapidement, c'est page 30 au début, qui dit « That crime never pays unless you do it at an institutional level ». C'est-à-dire le crime ne paie pas, sauf si t'attaches à ce que ce soit à un niveau institutionnel. C'est-à-dire quand t'es du côté des grandes pontes et que ça se passe vraiment très très bien. Un peu plus tard, page 363, là il explique un petit peu le sens du titre « Live by Night ». Quoi. Avec c'est un dialogue entre lui et Dion, c'est-à-dire son pote italien. Et il dit « The night tastes so good ». You live by the day, you play by their rules. So we live by night and play by ours. But we don't really have any rules. Donc voilà, ça veut tout dire, en fait, du cheminement de Joe Coughlin, des gens qui vont être autour de lui et de ce qui va se passer. Alors c'est carrément épique.
Alors ami non anglophone, vous aurez la traduction sur le blog de Du Sport.
Non, certainement pas. Vous attendrez la sortie du bouquin en français. Ce sera mieux. Alors c'est carrément épique. Déjà j'avais trouvé The Given Day, un Pegalobe, vraiment très très bien, un truc énorme. Bon, c'est quand même des gros pavés hein, qui font 400-500 pages. Given Day un peu plus épais à mon avis que celui-là.
Given Day, il est traduit en français.
Oui oui, c'est un Pegalobe hein. Je vous l'avais chroniqué en français hein, de toute façon quoi. Mais celui-là a nettement plus d'intensité dramatique, je veux dire, il y a nettement plus, l'histoire est plus centrée en fait sur un seul personnage hein. C'est Joe Coughlin, le plus jeune frère de la famille Coughlin, qui est le héros de ce bouquin. Mais de la page 1 jusqu'à la dernière page, de toute façon il n'y a pas tellement de digression comme il y avait dans The Given Day, où on s'attache à suivre les carrières du fiston aîné Coughlin, puis du père, avec des petites digressions en parlant un petit peu de baseball, de Babe Ruth. On est dans l'époque de Babe Ruth, où Babe Ruth justement quoi, qui est au Chicago Red Sox, eh bien va partir. Alors là, la grosse trahison de Babe Ruth, un des baseballeurs légendaires des États-Unis, et qui va partir pour les Rangers de New York. Et également d'autres petites digressions, mais qui aident également quoi à bien comprendre la situation dans laquelle il se trouve et l'environnement un petit peu social dans lequel il se trouve. Là, on croise également quelques grands personnages. Bon, sans rien vous dévoiler, je peux vous dire qu'à un moment, eh bien, Joe Coughlin, pour régler ses affaires, on va dire, et pour faire un peu la paix avec les autres clans, eh bien, va monter à New York, rencontrer El Capo de Tutti Capi, un certain Charles Lucky Luciano, qui va le prendre sous sa férule d'ailleurs, mais je ne vais pas tout vous raconter. Bref, c'est vraiment un
t'avais promis que tu spoilerais
excellent,
pas.
Excellent, excellent.
Ah ouais, c'est bien.
Ouais, non, mais là, c'est vraiment un bouquin excellent. Moi, je trouve meilleur qu'Un pays à l'aube, donc j'attends vraiment avec impatience qu'il nous sorte le troisième de cette trilogie. Et à mon avis, je vois déjà de qui il va parler, parce qu'il y a un des frangins qui n'a pas encore été évoqué, et je pense qu'on va encore se délocaliser un peu plus, mais du côté de l'Ouest. Bon, enfin bon, hein, on sait jamais.
Juste une question pour quelqu'un qui est prêt à l'acheter en anglais et à le lire en anglais. Le niveau d'anglais, c'est quoi ? C'est assez ardu ?
Non.
Ou est-ce qu'il y a beaucoup d'argot ? Est-ce que...
Non, c'est super lisible, hein, vraiment quoi. Non, vraiment.
D'accord.
Hein. Là, il n'y a pas de problème. Bon, faut quand même prendre le dico pour quelques expressions, quelques mots, quoi. Mais bon, tu comprends vraiment, c'est assez facile, quoi. Il n'y a pas de... C'est pas énorme, quoi. Non. C'est un peu plus difficile que Michael Connelly, si tu veux. Hein. Connelly est nettement plus rythmé, plus saccadé, plus concis dans ses phrases. Là, il y a quand même des fois des descriptions sur 2-3 phrases d'endroits, de paysages, de maisons, de trucs comme ça. Alors bon, bah, c'est vrai que là, ok, au niveau du vocabulaire, bon, bah, c'est quand même assez élaboré, hein, parce que bon, c'est des descriptions qui sont pas mal, hein, qui sont vraiment très très fidèles et très 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 précises quand même de certains endroits et de pas mal de choses. Mais sinon, bah, ça se lit vraiment assez facilement, quoi. Donc c'est Dennis Lehane, Live by Night. Je sais pas comment ils vont le traduire en français. Là, vraiment, je sais pas, hein, tu vois, quoi, parce que ça va être un petit peu compliqué. Ou alors ils traduisent simplement comme ça, mais ça va un petit peu déflorer le rythme qu'il y avait, quoi, avec justement le premier bouquin, The Given Day, l'opposition entre le jour et la nuit, quoi, qu'il y a entre les deux bouquins, tu vois. Quoi, parce qu'Un pays à l'aube, le premier, bon, qu'est-ce qu'on va trouver après ? Ça va pas être évident.
On va savoir.
Bon, bonne chance les traducteurs.
Vous écoutez Radio Éphémère, c'est le supplément week-end. Comble de joie, l'invité est arrivé. Le temps qui se met en place, on va s'écouter. à Manowar Metal Warriors, extrait de la compilation The Beryl's Ultimate Black Death Compilation of Metal, des groupes qui sont bien distribués nulle part. Every one of us has heard the call. Brothers of true metal, proud and standing tall. There's magic in us all. Heavy metal. We do just what we please. Got to make it louder. All men play on ten. If you're not into metal, you are not my friend. Heavy metal. Coincer l'entrejambe. Bah oui, tu entends comment ça coince et tout.
Alors on fait la petite présentation de notre invité quand même, puisqu'il nous a pas dit bonjour encore. Alors, Serge ne fait pas partie de ces artistes. On se fait une montagne en voyant leur créa, mais devant lesquels on est déçu en voyant un geek tout gringalet qui s'excuse presque de te parler quand il ne fuit pas tout simplement les fans. Non, Serge, c'est l'autre style. Le plutôt Alan Moore avec les cheveux au vent, le double mètre, les yeux d'acier, sa voix de Darth Vader et ses tatouages. C'est vrai que tu nous en parles de tes tatouages, tiens, il paraît que c'est nouveau. Serge, soyons honnêtes avec nos amis auditeurs, nous l'avons connu dans une autre vie, quand tu faisais autre chose, mais on n'en parlera pas. En tout cas...
tu peux en parler, hein, c'est pas le problème.
En tout cas, nous avons suivi ta renommée ascendante avec délectation, les fans toujours plus magnifiques qui sortaient de ton stylet, entre univers débridé tentaculaire à la japonaise et le côté classieux des pin-up occidental. Ton artbook Corpus Delicti est sorti cet automne chez Café Salé Inc.
Café Salé Inc.
Il y a des pin-up, encore des pin-up, un petit tuto, le tout préfacé par Digne Eagle, quand même. Serge, bonjour.
Bonjour.
Attends, pardon.
Je la refais, j'ai pas de son, c'est ça?
Non, non.
Non.
C'est bon.
Il y a un truc qui va pas, non?
Ouais, il y a une merde.
Voyons, reparle pour voir.
Bonjour.
Non, attends.
Tu veux que je prenne un autre micro?
Non, c'est pas un problème de micro. Putain, attends, mais je pensais que je l'avais débranché. Reparle pour voir.
Oui. Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Non, mais je comprends pas pourquoi on a ce son désagréable. Je suis pourtant désactivé les effets, notamment le générateur à couilles qu'ils mettent tout le temps, les rappeurs, là. Je sais pas ce qui s'est passé.
Oui, non, là, c'est la voix grave d'office, en fait. C'est pas un effet, je te rassure.
Ça nous était arrivé avec Boulet. Voilà, c'était ça.
Ah, c'est moi, j'ai la voix trop grave, c'est ça?
C'est ça. Bonjour, ça fait un plaisir de te recevoir sur cette antenne, c'est vrai, depuis un bail. Comme d'habitude, tu décrochais les mâchoires devant les dessins. Ben, donc un artbook, c'est, je veux dire, c'est tout à fait normal et mérité.
Ah, merci.
Alors, on a la permission de ta femme de t'appeler Boulet aujourd'hui.
Ouais, je pense qu'elle a une bonne raison quand même. Vu que j'ai quand même réussi à me perdre dans ma propre ville, ça fait à peu près une heure que je tourne dans le quartier alors que je suis à 1 km d'ici au grand maximum. Voilà. Notez la mauvaise adresse, on me donne les indications par téléphone et j'arrive quand même à me perdre. Donc, voilà.
Si tu pouvais prendre le casque et parler plus dans les micros, ça nous aiderait.
Voilà. Mais ça parler trop près du micro parce que ouais, dans le casque j'entends rien moi du coup.
Ah mais parce que on t'a pas mis le.
Ah ben voilà.
Là normalement ça
moi,
doit être un petit peu mieux, voilà. Bah oui mais c'est arrivé à l'heure.
Ah toujours pas. Hein.
Bon, on se démerdera ça.
Ah là c'est mieux.
Voilà. Donc.
Oui. Les questions, attends, le conducteur, je prends.
Alors, c'est moi qui commence. Alors, Serge Biro, Papa Ninja, Sergei Birovski. Maintenant, c'est Serge Van de Kramps. Va quand même falloir choisir un de ces quatre.
Ça va, je me suis marié qu'une fois, donc je vais garder celui-là. Mais voilà, non, après sur internet, généralement, on se trouve quand même des petits surnoms. Donc, c'est vrai que suivant les endroits dans le monde. On m'appelle différemment en fait, ça c'est rigolo. En Amérique du Sud, personne n'arrive à prononcer mon nom, donc tout le monde m'appelle Papa Ninja, comme ça au moins c'est clair. Et après, c'est vrai que celui-là m'a quand même bien suivi. Et puis bon, le Vandercrampe, c'est à cause de ma femme, voilà, qui a pris ce petit pseudo-là, donc je me suis senti un peu obligé de prendre le même quand même. Voilà.
Alors tout d'abord, on a parlé de Digne Eagle tout à l'heure. Préface de Digne Eagle, ça arrive pas souvent, donc est-ce que tu peux nous remettre le contexte? Qui est ce type?
Ah, alors, qui est ce type? C'est un illustrateur qui a, pendant très longtemps, travaillé pour Playboy, notamment, et qui a créé un personnage un peu emblématique là, de toute cette période-là, qui s'appelle Mandy, et qui est, à côté de ça, un mec absolument charmant, génial, tendre, affectueux, super généreux, et voilà. Et en fait, il m'avait envoyé un message il y a quelques années en me disant « J'aime beaucoup ce que tu fais, ce serait... ça correspondrait bien à Playboy et tout ça, donc il a essayé même de me pistonner pour bosser pour Playboy aux États-Unis, ça s'est fait. Mais voilà, donc vraiment c'est parce qu'il visiblement il aimait bien ce que je fais d'habitude, et puis depuis plusieurs années on papote toutes les semaines par mail, donc il suit énormément ce que je fais, et puis voilà, c'est vraiment un mec adorable, voilà, en plus c'est quand même une de mes principales influences, donc ça fait quand même plaisir, voilà.
Ouais.
Donc il a très gentiment accepté de faire ma préface, à la base c'est Maester qui devait la faire, mais Maester était un peu occupé, donc quelques semaines avant il m'a dit « je suis désolé Serge, j'ai pas le temps ». Et Dean me l'a fait dans la journée, donc voilà, c'était parfait.
T'as pas perdu au change?
J'ai pas perdu au change, non, c'est vrai que j'ai quand même...
Maester, si tu nous écoutes quand même.
Non, après, Maester, il a un emploi du temps qui est un peu rock'n'roll en ce moment, donc voilà, c'est pas de sa faute. Voilà. Et Maester est quelqu'un d'adorable aussi, y a pas de problème, je m'entends très bien avec Maester, il avait été très gentil d'accepter déjà à la base. Et voilà. Mais c'est vrai que j'ai du bol quand même, c'est que quasiment, à part Sorayama, qui est japonais, donc c'est un petit peu plus difficile pour rentrer en contact, mais ça va peut-être se faire cette année, j'ai rencontré à peu près toutes mes idoles de jeunesse, et ça se passe plutôt bien avec toutes mes idoles de jeunesse, donc c'est vrai que ça c'est quand même super cool.
tu veux dire que surtout ils sont aussi fans de toi ?
Je sais pas si c'est vraiment à cause de ça, mais je pense que je suis un peu en mode... La première fois que j'ai rencontré Maester, j'étais un peu en mode groupie, je sautais partout et puis j'étais là, oh mon dieu, Maester, mon dieu, j'y crois pas. Voilà. Ça va, j'ai parlé assez aigu, là, ça passe. Voilà, ou Jean Mulatier, pareil, la première fois que je l'ai rencontré, c'est pareil, je me retrouve face. C'est le premier bouquin que j'ai acheté avec mon argent de poche, c'était un bouquin de Jean Mulatier.
Quand il faisait les grosses têtes dans Pilote.
Voilà. Et là, on se voit maintenant assez régulièrement. C'est lui que je vois le plus. Et c'est sans doute le mec le plus adorable du monde en plus. Donc voilà. Alors, je sais pas si fondamentalement ils sont vraiment fans de ce que je fais, mais en tout cas, humainement, ça passe bien. Et puis voilà. Puis ils sont toujours contents d'avoir des gens qui sont accrochés à eux comme ça. Ah oh, mon dieu.
Ouais. Alors, je tiens à signaler quand même que cette émission est spécialement dédicacée à Olivier Schramek, qui est donc notre. Le président de notre autorité de le nouveau président de notre autorité de tutelle, hein, directeur du CSA. Thomas, question suivante donc pour l'intro.
T'as compris le gag toi ou...
Il y avait une blague.
Et oui, parce que c'est l'intro de ta question suivante où tu introduis le sujet quand même.
D'accord, il paraît. Alors, pour nos amis auditeurs, bah, nous on s'éclate parce qu'on a ton artbook sous les yeux, on se le passe entre nous là pour feuilleter, mais pour nos amis auditeurs qui n'ont pas la couleur, ton style pourrait être résumé à pin-up à gros nichons avec des tentacules autour. Est-ce que cette description te convient?
Oui. Je suis pas... comment dire Non, ça me va très bien, non, c'est pas... voilà, ça, oui, ça résume assez bien. J'ai pas de grosses ambitions artistiques, donc si vous voulez, quand on... à partir du moment où les gens commencent à mettre ce genre d'image en fond d'écran, je me dis, j'ai atteint mon but, quoi, voilà, j'ai fait mon boulot, quoi, voilà.
Amis débutants, illustrateurs, voilà, c'est la clé du succès. Si vous voyez des fonds d'écran de vos images, c'est que c'est bien parti. Alors, on a parlé de l'artbook tout à l'heure donc chez Café Salink. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu l'opportunité d'éditer ton artbook chez eux? Écoutez bien les jeunes, encore une fois, faites pareil après.
ouais, écoutez bien, il suffit d'attendre, en fait. C'est souvent la clé, c'est faut être patient. Non, après ce qui
c'est pas toi qui les a démarchés alors.
Non, 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 je démarche rien ni personne ni pour le boulot. J'attends que ça tombe.
C'était ça qu'il fallait faire. Il faut attendre en fait. Ok.
Non, après
j'ai essayé, ça marche pas.
Les opportunités, faut se les créer. Donc après, c'est vrai qu'il faut faut faire en sorte de ne pas avoir besoin de demander, quoi. Voilà, c'est. Moi c'est vrai qu'après j'étais pas vraiment parti pour l'éditer en France, j'avais plutôt des propositions d'éditeurs américains, japonais, chinois, ce genre de plan là. Et au moment où Café Salé m'a demandé, j'étais en train de me dire que j'allais signer chez des américains. Donc après ça m'arrangeait un peu de l'avoir en France pour des raisons légales, pour plein de choses, c'était quand même plus pratique. Généralement chez Café Salé ils font quand même plutôt des bons bouquins, donc voilà. Et puis j'avais ma petite bande qui éditait aussi chez eux, donc il y a Jean-Sébastien Rosbach qui est sorti juste avant, Pascal Blanchet aussi, donc voilà, je me disais que c'était pas mal de faire ça en bilingue aussi, voilà.
Et puis t'étais déjà membre de la communauté aussi à la base.
Ouais, je suis pas très impliqué dans Café Salé parce que je suis pas très franco-français, on va dire. Je suis même pas très fan du style français en général, de pas mal de choses qui passent sur Café Salé, mais puis c'est pas mon milieu, mais bon.
Ok, ça c'est fait.
Non, c'est bien, commencer avec les brossages d'un sens de poil, c'est parti, ça y est.
C'est pas méchant ce que je dis, c'est juste que c'est pas trop ma tasse de thé. Après, c'est pas une question de qualité, il y a des choses magnifiques sur Café Salé au niveau qualité, c'est juste que c'est pas ma culture, quoi. Même si j'ai grandi avec de la BD franco-belge, je suis un peu... voilà, maintenant ce qui m'intéresse c'est pas trop ça, donc moi c'est plutôt américain ou japonais, quoi, voilà. Mes inspirations sont plutôt de ce côté là, donc voilà.
Dans sa préface, Dean Eagle résume bien ton style de nana dans la préface. Donc il dit, entre le beau et le drôle, un peu trop loin du côté drôle et elle ne sera pas jolie, un peu trop du côté de la beauté, elle perd son âme. Est-ce que c'est un dosage que tu as mis du temps à peaufiner?
En fait je me suis jamais trop posé la question parce que après j'ai une autre, enfin c'est plutôt pour le côté technique de la chose, c'est-à-dire que faire des filles très belles, très lisses, très inexpressives comme très souvent on essaye de faire les pin-up, ça m'intéresse pas parce que techniquement c'est pas intéressant à faire. Je préfère avoir des personnages un peu plus expressifs, quitte à ce qu'elles fassent des grimaces ou autres. Et d'un autre côté, après, c'est vrai que moi, j'ai plus tendance à être à avoir l'œil attiré par des filles qui ont un physique à part, on va dire, pas voilà la nana toute lisse, mannequin, qui a rien qui ressort. Je préfère avoir des gens qui ont un physique un petit peu hors norme comme ça et qui ça m'attire plus l'œil. Voilà, je trouve ça plus intéressant d'avoir des personnages expressifs de toute façon que
oui, des nanas à belles courbes quoi.
Aussi, mais bon.
Alors, puisqu'on parlait quand même des communautés, tu es aussi bien sur Café Salé que sur DeviantArt.
CGUB.
Voilà, ouais. Mais est-ce qu'il y a une spécificité sur les communautés que il y en a une, tu te sens plus d'affinité qu'une autre?
Oui. Après, je pense qu'il faut voir aussi en fonction de ses intérêts, hein, parce que le principal intérêt de poster sur ces forums-là, c'est pas trop d'avoir du retour, mais c'est de se faire sa promo, en fait. C'est super focus comme méthode, en fait, hein, tous ces forums-là. En fait, on poste logiquement pour avoir des critiques, des avis, ce genre de choses. En fait, quand on est au moins pour les freelances, c'est juste pour se faire sa promo, parce que les images se diffusent énormément à partir de ces forums-là. Et après, suivant son intérêt, suivant là où on veut se faire sa promo, c'est sûr qu'il vaut mieux poster sur tel ou tel forum. Café Salé, c'est franchement totalement franco-français, c'est écrit en français, tout le monde parle en français, donc si vous voulez faire votre promo à l'étranger, ça sert strictement à rien. Après, dans les gros forums, DeviantArt, c'est un petit peu... c'est tellement chaotique, il y a tellement tout et n'importe quoi que c'est quand même pas l'idéal pour se faire sa promo. Vu que la majorité des gens qui y vont, c'est plutôt des ados de 15 ans que des professionnels du milieu. Et après, dans les gros forums qui peuvent être utiles, CGHub en ce moment, c'est l'endroit où il faut être, quoi. C'est un peu... avant c'était CG Talk, mais bon, pour ceux qui font de la 2D, le forum est maintenant complètement mort en 2D, donc ça sert pas à grand chose de poster. Par contre, CGHub, oui, en ce moment, c'est le truc où il faut être. Mais là, en ce moment, ça devient tellement gros qu'on pense que très rapidement, il va falloir en trouver un autre. C'est un peu le problème des forums, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient... Il y a tellement de monde et tellement de gens qui mériteraient d'être en front page régulièrement que on a de moins en moins de chances d'y être. Donc généralement au bout d'un moment les gens qui sont de moins en moins commencent à en avoir marre parce que voilà, donc ils changent de forum. C'est ce qui s'est passé quand les gens sont partis de CGTOL pour aller sur CGE. Donc on sait pas, voilà.
Xavier, je te propose une coupure musicale avant de repartir sur les cons féminines.
Oh non, je pense qu'on peut y aller. Hein.
Allez, je pense que c'est une manière de faire le buzz pour ramener encore plus d'auditeurs.
Largement.
Alors si tu es suivi par des fans sur cette antenne, vous pouvez poser vos questions à Serge en appelant au 05 61 580
non.
580.
Je non, sais que pas t'as... par téléphone, ça va être ingérable.
Mais si. Des nanas, on en parlait tout à l'heure, les jeunes filles que tu dessines qui ont des courbes absolument parfaites et des décolletés pigeonnants, est-ce que tu n'as jamais franchi le pas d'aller plus loin dans le déshabillé?
Non, non, putain, merde.
Ça faisait longtemps, cette alerte.
Ça faisait longtemps, facile,
celle-là.
Ouais.
Merci Serge de nous remettre l'alerte.
C'est gonflant, Thomas, hein, tu le savais en plus.
Pour une fois, c'est pas moi.
Donc, pourquoi ce choix de ne jamais aller dans le nu?
Alors, c'est principalement dû, moi, ça me poserait pas problème de faire ce genre de dessin. J'en fais pas parce que j'ai pas trop l'occasion de le faire, j'ai pas trop le temps. Mais après, faire du nu, faire des choses même érotiques, voire porno, dans l'idée, ça me dérangerait pas. La seule chose qui me dérange, c'est que mon média principal, c'est quand même Internet. À partir de là, quand on poste une image, on n'a plus aucun contrôle dessus. Donc j'ai toujours peur que des gamins puissent voir, ayant des enfants, qui sont pas encore en âge d'aller sur Internet, mais mes gamins sont mon garde-fou, en fait. J'aime savoir que mes gamins, ils peuvent passer derrière mon écran sans être choqués par ce que je dessine. Voilà. Là, pour l'instant, ils ont bientôt 5 et 6 ans, donc... Ils passent derrière, ils trouvent mon image à la limite marrante, quoi. Voilà, c'est à la limite, c'est même mes meilleures critiques. S'ils trouvent l'image marrante, c'est plutôt
attends,
bien.
Il va falloir attendre 13 ans pour que tu fasses du nu, là.
Non, je pense que même dans 13 ans, je le ferai pas, parce que c'est vrai que c'est... ou alors dans un cadre particulier, dans un cadre de diffusion particulier. Voilà, je peux faire des expos ou des trucs comme ça, là, ça me poserait pas de problème, mais parce que le public est ciblé et que voilà, les gens qui viennent savent qu'ils vont voir ça. Le problème d'Internet, c'est que vous tapez n'importe quel mot, vous tombez sur une image porno. Si vous êtes dans les images, si vous n'avez pas de filtre, bon, voilà. Et j'ai pas envie de ça. C'est vraiment la seule raison. Après, éthiquement, ça me poserait pas problème. J'ai pas de problème avec ni l'érotisme, ni le porno, ni ce genre de choses. Mais voilà, c'est pas, pour l'instant, c'est pas ma tasse de thé. Ouais. Peut-être que quand je vieillirai, ça me reviendra. Quand tout ça sera loin derrière moi, j'aurai peut-être envie de le dessiner.
On t'a demandé d'amener ton univers musical.
Et il a pas attendu beaucoup de questions après pour passer sans intro, sa coupure quand même. Je lui ai proposé, il y a une question seulement. Hein.
Parce qu'en fait, l'alerte était prête. Voilà, je suis le script.
Ah, d'accord.
Je suis désolé. Okay. C'était un peu chiant après de jongler et tout le reste. Tu as devant toi des disques en nylon.
Ouais, j'en ai quelques-uns. Bah, tu veux commencer par quoi?
Vas-y. Il y a du sport. Prends un album. Dis lequel tu as envie de passer et explique pourquoi.
C'est pas toi qui choisis du sport. Hein.
C'est pas toi qui choisis du sport.
Oh, si, non, mais laissez-le choisir. Attends.
Ça va pas. Il choisit le robot. C'est lui qui fait la programmation 100 heures par semaine à la radio.
Mais non, mais c'est un fan des Misfits aussi, donc il y a pas de problème.
Ah ouais, bon d'accord.
Allez, vas-y. Fais-toi plaisir.
Lequel?
Le 3, il a dit.
De toute façon, tous les morceaux sont bons.
Voilà, exactement.
Donc, les Misfits, pourquoi?
Alors, les Misfits, pourquoi? C'est au moins pour les trois premiers albums, tant que Danzig était encore chanteur de ce groupe.
Glenn
Danzig était chanteur de ce groupe. Je pense que c'est parmi les meilleurs groupes de punk, entre guillemets, si on peut encore classer ça comme horror punk, comme ils disent, mais c'est sans doute mon groupe de punk préféré, bien qu'il soit américain, voilà, malgré tout, comme quoi il n'y a pas que les Anglais qui savent faire du punk, et surtout qui était, à ce moment-là, qui était quand même très différent de ce qui pouvait se faire en Angleterre, et vraiment cet album-là, ça reste, enfin, les trois premiers en général, mais ça reste un des trucs que j'écoute le plus souvent, ouais.
Misfits, extrait de l'album Wolf's Blood, le morceau c'est David Locke.
Dis le mieux, vas-y.
Ouais, vas-y.
Non, vas-y, fais. Passe.
Locke, Misfits. L'intro de Serge finalement était plus long que le morceau.
Ah ouais, bah, oui, c'est du punk.
Ouais, c'est du punk. Voilà.
Faut que ce soit court.
On parle de la musique. Hein.
Alors on parle un peu de musique alors.
Alors à ton avis, Misfits, ça a été motivé. Là.
Ouais, à ton avis, quand est-ce que c'est passé quand est-ce qu'ils sont passés de la dénomination punk à la dénomination hardcore, les Ricains?
Alors ça, aucune idée.
Peut-être quand les morceaux ont fait plus de 2 minutes quoi.
Ouais. Ouais, je pense que ça a été un des critères. Ouais. Ouais, quoi qu'il y a encore des morceaux de hardcore qui sont très 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 courts.
Ouais. Et puis pour l'information et pour l'édification musicale des masses populaires, on va dire que les Misfits, il y avait Black Flag également à la même époque. Et il y avait un groupe qui s'appelait les Beastie Boys, qui faisait pas du hip-hop au départ, hein, qui faisait un petit peu le même genre de musique, on va dire.
Oui, tout à fait. Comment on reconnaît qu'un dessinateur est gaucher ou droitier, en général? Posez-vous la question, en tout cas, c'est la question de Thomas.
Facile.
Oui, facile.
Ouais, effectivement, bien vu.
Tu sais que c'est comme ça qu'on fait, donc...
Ah ouais, c'est une petite remarque que je t'avais déjà faite en off auparavant. On a remarqué que tu les dessinais, tes nanas, très souvent dans la même position de trois quarts vers la gauche.
Alors,
franchement, tu te renouvelles pas trop là.
Alors déjà, c'est faux.
Si, 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 4, 5, 6.
Non, mais compte pas sur les notes.
C'est du 2 contre 1 si je suis, en fait les dessins sur DeviantArt, sur ta galerie.
Alors, il y a.
Ah non, mais attends. Compte-les, tu vas le voir.
Non, mais je me fais la remarque parfois parce que naturellement c'est comme ça. Voilà, je. Sans doute, je sais pas si c'est
normal,
dû au fait que je sois droitier ou gaucher. Je pense que c'est aussi dû au sens de lecture. D'aller à l'opposition du sens de lecture pour rencontrer le regard.
De gauche à droite, voilà. Oui.
Je pense que c'est. Ouais, ça a été un. Ça a été. Je pense que c'est l'élément déterminant, c'est plutôt ça. Ouais. C'est ce qui accroche le regard, en fait.
Alors donc, pour l'Asie, tu vas imprimer les trucs à l'envers.
Il m'imprime par contre ça à l'envers, ouais.
Zhangzi, tourné vers la droite, effectivement.
Ah oui, ça. Oui, c'est vrai, tiens.
Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qu'il faut. Combattre parce que généralement quand on fait des croquis on les fait sans trop réfléchir non plus et régulièrement j'inverse mon image aussi bon déjà pour vérifier la symétrie mais aussi pour changer d'axe de temps en temps parce que c'est vrai que naturellement je les fais toujours avec dans ce sens là voilà. Après le regard de trois quarts j'y fais souvent alors personne me fait la remarque mais je les fais quasiment toutes avec les yeux alignés sur l'horizon les deux. Vraiment, c'est-à-dire, mais en fait, c'est parce que je travaille quasiment sans perspective du tout. J'aime pas, enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve plutôt, pour remplir l'image au maximum, je me suis aperçu que bosser sans perspective, c'était plus efficace pour les pin-up. J'ai fait des tests hein, pour ça, et celle qui marche le mieux, bizarrement, de mon image, c'est celle où la file prend le plus d'espace dans l'image. Et je pense que c'est très bête, hein, mais ça marche, c'est quasiment automatique. J'ai fait je refais le test régulièrement, voir les images qui marchent ou marchent pas. Et en effet, plus la fille prend d'espace dans l'image, et mieux ça marche.
Avec moult accessoires et voilà.
Voilà.
C'est vrai que c'est le tentacule, ça aide aussi sur les côtés.
Ouais, ça aide à faire du remplissage aussi, ouais. C'est ça que tu veux dire.
Alors, on connaît finalement... peu la carrière que tu as eue avant dans la peinture physique, la vraie peinture quoi, pas peinture numérique.
Ou dans le droit du travail.
Ou dans le droit du travail.
Voilà. Bah ça, voilà.
C'est privé de choc.
Voilà, bon, ça c'est fait. Oui, est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens, combien de temps tu as passé sur cette pré-carrière, pourquoi avoir changé vers le numérique ensuite ?
Alors, j'avais pas franchement de carrière là-dedans, j'ai gagné un peu de sous là-dedans avant pendant mes études, bon, comme disait Xavier, j'ai pas fait d'études d'art, j'ai fait des études de droit, donc voilà. Et pendant ce temps-là, j'ai quand même essayé de gagner de temps en temps un peu de sous avec le dessin, et donc à l'époque, de toute façon, il n'y avait pas le choix, hein. Le numérique, ça n'existait pas ou peu. Et je me suis mis au numérique pour des raisons de facilité en fait, hein, tout simplement, hein, parce que toutes les techniques traditionnelles déjà, petit A ça prend du temps, et petit 2 il y a quand même des contraintes financières qui font que ça, voilà, on a besoin d'espace, d'argent parce que ça coûte excessivement cher, voilà, dès que vous voulez faire de l'aérographe, faut acheter un compresseur, faut acheter ci, faut acheter du matériel, faut changer, le nettoyer, c'est super contraignant. Et professionnellement, c'est pas... Visiblement, c'est viable, parce qu'il y a encore des illustrateurs qui sont à l'huile, hein, donc... sur Muddy Colors, là, je suis le seul qui soit en digital, les autres sont tous illustrateurs professionnels, ils vivent uniquement de la peinture à l'huile. Mais là, moi, je me le sentirais pas. Ouais. C'est vrai qu'avec les deadlines que j'ai, c'est pas possible.
Alors que l'aérographe, quand même.
Ah ouais, l'aérographe.
Ça donne un look absolument génial. C'est toujours réussi.
Si j'avais pas fait d'aérographe maintenant, je ferais pas ce que je fais là. C'est ce qui m'a.
Voilà,
techniquement, ça a été. C'est toujours ma principale influence.
On a ressorti une pochette particulièrement ratée des années 80 de la discothèque de la radio.
Et donc, Serge, tu es en train de nous expliquer que sa vie a changé quand tu as enfin expérimenté le CTRL-Z.
C'est à peu près ça. Ah ben, c'est clair que c'est.
Encore, pour
ça n'a
pas
rien à voir.
On explique le CTRL-Z, c'est la manip qui permet de revenir en arrière quand tu te trompes. Hein. Voilà.
Ben, ça offre quand même une liberté qui est complètement dingue, quoi. Enfin, quand on a appris à peindre, quand on a peint pendant longtemps, que ce soit l'acrylique, à l'huile, à l'aérographe ou ce que vous voulez, quand on découvre qu'on peut recommencer, déjà qu'on peut faire des sauvegardes, ça c'est qu'on peut revenir en arrière, c'est carrément magique. Après, quand on retourne au traditionnel, c'est vrai qu'on a le réflexe de dire où sont les deux touches là, parce que. Donc là, je vais m'y remettre au tradi, parce que j'ai une expo dans 2 ans en Paris, donc il faut que je m'y remette. Et donc je m'y remets doucement, je redessine, je refais de l'acrylique, petit à petit, et voilà, jusqu'à ce que je puisse me remettre à l'huile. Et puis voilà, j'ai 2 ans pour pondre quelques tableaux, et voilà, je suis déjà un peu anxieux là quand même.
Alors comment on fait pour vendre et pour exposer une œuvre numérique?
Ah, ben ça c'est le... C'est la bonne
où est la notion d'original, où est, voilà. Où est la notion de possession, et c'est quoi? C'est la qualité de la reproduction, ou bien on le refait et on donne de l'épaisseur à la peinture
Non, il faut. Ben, en fait, il faut. C'est un peu délicat là. Nous, on est parti. Enfin, tous les gens qui bossent en digital sont partis. On va essayer de se rattraper sur le nombre. C'est-à-dire qu'au lieu de faire très peu de copies chères, on en fait beaucoup à moins cher. En gros, l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que moi, j'ai un imprimeur américain qui s'occupe de tout. Chaque poster coûte 20, 40 euros, 40 dollars même, qui sont en super bonne qualité, framés, tout ce que vous voulez, mais ça reste quand même de la copie. Donc voilà, c'est vendu à un prix assez dérisoire comparé à des super impressions qui sont faites à partir même de tableaux à l'huile ou... ce genre de choses, qui sont numérotées, où il y en a 100 exemplaires, ou 50, ou 10, voilà, ou qui sont vendus hors de prix. Ça revient à peu près au même, en définitive, je pense. Mais c'est vrai que nous, du coup, en digital, on perd le truc de l'œuvre unique, donc au final, c'est à peu près équivalent. Moi, je vois les rares pièces en tradi que j'ai vendues sur les dernières années, c'est à peu près kiff-kiff, quoi. Voilà.
On va changer de d'univers un petit peu, puisque tu es également professeur d'art graphique dans, je sais plus, t'as beaucoup changé d'école aussi. En quoi le fait d'enseigner a pu influencer ta production perso?
Bonne question. Les gens, enfin tous ceux de ma génération, on s'est retrouvé avec un problème, c'est quand on a ouvert Photoshop pour la première fois, on n'avait rien, on n'avait pas d'internet, on n'avait pas de bouquins. Donc on a dû apprendre tout seul, donc généralement on a appris de travers, enfin en tout cas moi voilà, je suis toujours incapable de dire à quoi sert la moitié des boutons de Photoshop, je sais absolument pas à quoi ça sert, je connais aucun raccourci clavier, donc bon, ça fait un peu bizarre d'enseigner maintenant, mais bon. C'est quand même important, moi je sais que si j'avais pas eu fait de l'aérographe avant et où j'ai appris à faire ça correctement, ça a été du coup plus facile pour moi de m'adapter après aux outils. J'utilise très peu d'outils sous Photoshop, mais c'est, en gros j'ai juste fait que transférer ce que je savais déjà au numérique. Je pense que c'est quand même important d'essayer de, au moins d'aiguiller les plus jeunes dans les écoles qui veulent faire ça, pour pas qu'ils perdent de temps, c'est-à-dire que c'est des trucs qu'ils finiront par découvrir par eux-mêmes, voilà, comment s'organiser, c'est plutôt au niveau organisation de travail, parce que c'est la seule chose que je peux enseigner, je peux pas faire à eux des meilleurs peintres, que voilà, ils ont juste besoin de pratique. Après, c'est juste leur montrer comment moi je travaille, dans quel ordre je travaille, se servir des calques, faire ça, dans quel ordre travailler, par étape, par quoi déterminer, les lumières, l'influence des couleurs, tout ça. Pour moi, c'est quand même important d'enseigner ça pour que eux perdent pas autant de temps que moi j'ai pu en perdre à essayer de maîtriser l'outil, quoi. Après, l'outil en lui-même, de toute façon, moi je me sers du pinceau, de la gomme, de 2-3 réglages pour les couleurs, les contrastes. Après, tout le reste, je sais même pas à quoi ça sert, j'ai jamais ouvert et ça m'intéresse pas. Voilà. Donc ça fait beaucoup rire mes élèves, parce que quand ils me disent il y a un raccourci clavier pour ça, il y a un raccourci, je dis oui, je m'en fous.
Moi, ça me plaît de passer 2 heures à faire ce que vous faites en un clic.
Parce que ça revient jamais à ça en fait, en définitive, mais c'est plutôt eux, ils comprennent pas que moi je suis loin, enfin ma position, j'ai la tablette sur les genoux quand je dessine, donc je suis loin de mon clavier, donc moi il faudrait que je me penche à chaque fois pour appuyer sur le clavier, ça m'emmerde, donc je fais tout avec le stylet et puis ça va plus vite pour moi, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que pendant les workshops ou les trucs comme ça, tout le monde me regarde en disant mais les raccourcis clavier, bah non, je sais pas, je le connais pas.
Alors l'actu informatique de cette semaine, c'est l'éditeur Adobe qui offre Photoshop CS2.
Adobe.
Adobe, c'est comme ça que ça se prononce en anglais.
C'est fou en fait.
Ah bon, d'accord. Donc
voilà, bah, voilà, je t'ai cassé ton
Photoshop ça, Photoshop ça, ça s'est lancé en 89. Oui. Le logiciel Photoshop qu'ils offrent, parce que tout simplement ils ont arrêté de faire le système de validation pour cette version là. Donc on peut télécharger la version CS2 de Photoshop, qui a 10 ans d'âge quand même. Est-ce que les fonctions de cette version suffisent amplement? Et dans ce cas, quel est l'intérêt de payer pour une licence d'une version beaucoup plus récente, sachant que le logiciel est largement au-dessus des 1200 euros en neuf?
Alors, moi j'utilise la CS3, donc la version juste après. Et c'est pas pour une raison de choix, c'est que j'ai eu celui-là, donc j'ai utilisé celui-là. Si j'avais pu... Enfin, CS2 ou CS3, il n'y a pas énormément de différence. Comparé aux dernières versions, même je conseille plutôt d'utiliser CS3 que CS6, hein, mais bon. Pour des questions de gestion de mémoire, pour pas mal de trucs, il y a plein
ça
de bugs encore sur la dernière.
Ça tombe bien,
je suis
toujours au CS3 moi aussi.
Par contre, je pense qu'en effet, l'info comme quoi la version CS2, on peut télécharger gratuitement.
Légalement.
Légalement et gratuitement, voilà. Visiblement, c'est un fake, hein, mais bon. En effet, sur la page d'Adobe, il y a les liens et tout ça, mais Adobe a prévenu que... Ils étaient en train d'y réfléchir, mais visiblement, enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais visiblement.
Non, il y a la clé. Il y a eu la clé.
Mais visiblement,
il
y a un couac hein, quand même.
Il y a un couac au niveau légalité.
Voilà. Aïe.
D'accord.
Ça a été répondu 2 jours après.
Un peu tard, malheureusement, l'info avait un peu trop circulé. Et est-ce que tu t'es intéressé à d'autres logiciels notamment, est-ce que la panoplie libre, GIMP et tout ça, puisqu'on en parlait lors du Capitole du Libre.
Alors. La seule raison pour laquelle j'utilise Photoshop, vu que j'utilise très peu d'outils en définitive sur tous ces logiciels-là, la seule raison pour laquelle j'utilise Photoshop, c'est petit A parce que je l'ai. Et petit 2, pour des questions de gestion de mémoire, c'est-à-dire que vu que je travaille sur des formats qui sont très gros, c'est le seul logiciel qui me permet de travailler sur des formats A1 ou A2. Moi je travaille quand même sur ces formats-là. C'est quasiment impossible de travailler sur ces formats-là, même sous Painter, même sous de GIMP. Et c'est vraiment dommage parce qu'en plus, ça va te faire plaisir ce que je vais dire, mais.
Non, non mais bon.
Au niveau fonctionnalité, je me sens plus à l'aise avec The GIMP qu'avec Photoshop. Je trouve que les outils sont plus souples, beaucoup plus. On peut mieux les régler. Notamment l'aérographe, parce que c'est ce que j'utilise le plus.
Tu sais que c'est un dessinateur français qui a travaillé énormément sur la tablette. Hein, qui a fait le code pour la tablette.
C'est un très très bon logiciel, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vrai qu'au niveau ergonomie, il fait un peu peur quand on l'ouvre, mais moi c'est juste pour des questions de performance. Parce que Photoshop est le seul avec lequel on peut travailler sur des très gros formats. Et moi, les demandes que j'ai. Généralement, c'est pour du très gros format. Donc,
Alors, quelle dimension ?
Alors, justement, il y avait par rapport à ce que tu disais, le dessinateur Benjamin qui était venu, le dessinateur chinois, qui nous disait que lui, la principale difficulté dans la pratique du travail numérique, c'est qu'il y a des fois, il utilisait des fichiers sur Painter qui étaient tellement lourds qu'il pouvait même plus les ouvrir après.
C'est ça.
Donc, il était vraiment emmerdé par rapport à ça.
Ouais. Ah ouais, c'est vraiment naturellement, en plus, les gens qui viennent de la peinture sont quand même beaucoup plus à l'aise sous Painter. Et c'est vrai que moi aussi, au niveau touché, on va dire, entre guillemets, je me sens plus à l'aise sous Painter. Après, malheureusement, je peux pas, je peux pas bosser sur avec ce logiciel-là vraiment uniquement pour des raisons de performance.
Et le code, donc, celui qui a programmé en fait la gestion, une meilleure gestion de la tablette dans GIMP, c'était Bruno Bellamy, le nom m'avait échappé. Quelle est la taille justement des canevas que tu utilises? Encore un, ouais.
Au bas mot, je suis en A3 en 300 dpi. Au bas mot. Et régulièrement, tout ce qui est industrie du disque, les trucs comme ça, je passe à du A1 ou.
Alors, faut
savoir la couverture de mon bouquin, c'est un.
Alors, si on n'a pas envie de se fader la conversion, on parle en dizaines de milliers de pixels par dizaines de milliers, quoi.
Voilà.
C'est plus fin que les écrans de cinéma.
Ma couverture, en gros, ça fait un format en 1 mètre de haut. Voilà.
faut savoir aussi que Serge dévoile le nombre de calques sur lesquels il travaille dans son artbook. Vas-y, dis le chiffre, vas-y.
Fais peur aux techniciens.
Pour la coupe du artbook, quoi, j'ai dépassé les 1000. voilà. Ça aussi, faire ça sous un autre logiciel que sous Photoshop, c'est. Ouais, on peut s'accrocher, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment la seule raison. Après, moi, j'encourage tous mes étudiants à essayer autre chose. Notamment pour tous. Généralement, ils veulent tous bosser dans le jeu vidéo. Donc, pour tout ce qui est character design et trucs comme ça, d'essayer, voilà, de GIMP ou Painter. Après, de GIMP, l'avantage, c'est qu'il est, voilà, il est gratuit, libre. Donc, ils peuvent le télécharger chez eux. Bon. Vous doutez bien que tous les étudiants s'amusent à craquer Photoshop comme tout le monde, il n'y a pas de raison.
Ouais, ça, on dit même que ça serait un business model, mais...
Oh, penses-tu ?
Ouais, penses-tu.
Tu crois que c'est pour ça qu'il donne des versions de démos si oui, facilement, voilà, dans, ouais, tous les ça. Magazines
ouais.
Et...
ouais, tout à fait. Ça date de Débas 2, ça, ouais. ça. On revient en arrière. Donc, pour en revenir à tes étudiants, quand même, ce sont les étudiants en bas âge. Hein, ils viennent à peine d'avoir leur majorité pour certains.
Bas âge.
Tes parents n'ont-ils pas protesté quand ils ont découvert ton art sur le PC de leur petit chéri ?
Non. Non, j'ai pas eu de... Pour l'instant, non. J'ai plutôt eu pas mal de messages de parents disant qu'ils étaient très contents que j'enseigne à leur gamin. Ça fait plaisir, déjà, mais... J'ai reçu 4-5 mails comme ça de parents. Pour dire merci. Donc, voilà. Enfin, que leur gamin était plus motivé depuis que j'étais là. Donc,
Attends, c'est quoi l'école ? Parce que chez moi, j'ai pas ça, moi. Hein. J'ai pas des messages.
Ouais, mais il faut trouver la bonne école. C'est un peu le problème. Hein. Ouais. Enfin, on t'enseigne aussi, donc tu sais, tu connais ce problème-là. voilà. Petit message à tous ceux qui veulent faire des études là-dedans. Choisissez bien votre école, ouais, voilà.
Oui, vraiment, très sincèrement. comment réagissent, d'un autre côté, les jeunes élèves féminines, sous-entendu les oies blanches, hein, quand elles ont découvert ton sujet de prédilection? Elles rougissent en manipulant leur chapelet, elles osent pas, elles se mettent en maladie, elles font 3 AV pater en sortant.
Faut savoir que déjà que dans ce type d'école, il y a la grosse majorité, c'est des mecs. Hein.
Non.
Non. Ah bon d'accord.
Tu es dans la mauvaise école, Thomas.
T'es vraiment dans la mauvaise école, hein. Vraiment pas de bol, hein. Non, je pense que on est à peu près à moite-moite là chez moi. Non, et puis généralement, je suis assez surpris. J'ai des stats qui sont ce qu'elles sont, notamment sur Facebook, voilà, pour savoir répartition de population des gens qui regardent que. Et je suis presque à moitié-moitié homme-garçon. Comme
d'accord.
Quoi, mais j'étais assez surpris aussi, et puis j'ai pas mal de, bizarrement, de, voilà, de gens qui ont rien, ou de nanas qui s'intéressent pas du tout à tout ça à la base, et qui suivent ce que je fais. Voilà.
Et il y en a d'autres qui te font le même coup qu'au professeur Jones, au début d'Indiana Jones, avec marqué « Love You » sur les paupières.
Non, j'ai pas faire, eu, mais hein. Généralement, quand je débarque dans les écoles, tout le monde sait que je suis marié, avec qui je suis marié, à quoi ressemble ma femme.
Ça, c'est sûr.
donc, voilà, tout le monde sait que j'ai... Non, tout le monde... C'est assez rigolo, mais ça c'est depuis Facebook. Quand tu débarques quelque part, quand j'étais au Mexique, on m'a offert des cadeaux pour mes gosses, pour ma femme, on a fait des portraits de ma femme, on a fait des... Voilà, maintenant on se... Et puis généralement les gens connaissent mieux Chloé que moi. Voilà, les gens dans la rue ou dans les festivals de musique ou dans les boutiques arrêtent Chloé, mais pas moi.
D'accord.
Ils la reconnaissent elle, mais ils ne me reconnaissent pas.
Avant de parler justement de ta femme, puisqu'on avait plein de questions, on t'a préparé un petit truc en plus pour savoir si t'es en forme là ce matin. Parce que, en fait, sur les réseaux sociaux, tu admets le fait que tu es passionné de tentacules. Et donc, on t'a préparé un petit quiz tentacules.
Ah là, je vais vite me faire caler, là, je sens.
Je retrouve ma fiche. Alors, j'ai volontairement masqué ce quiz à mes confrères, donc il y a tout le monde qui peut jouer. Alors, je suis un peintre célèbre. Bon, Xavier, participe pas à cette question, tu es interdit de participation. Je suis un peintre célèbre, j'ai créé une peinture mettant en scène une femme enlacée par une pieuvre qui lui fait un cunnilingus. Je l'ai peinte lors de l'époque d'Edo.
Et oui.
Et c'est l'une des pièces fondatrices du style hentai.
La femme du pêcheur.
Et de...
Ça va me revenir.
Au Kusai.
Bravo.
Bravo, allez, merci. Bravo du allez. Sport qui a écouté le retour au début d'émission.
50-50.
Non, parce que tu me les as passés, les Kusai, donc.
C'est bien, t'as retrouvé le titre.
Je connais, on a fait. Il y avait une expo à Minneapolis il n'y a pas longtemps. On m'a invité pour.
On m'a invité à Minneapolis, ouais, je vois pas.
En ce moment, on m'invite partout, j'en profite. Non, j'y suis pas allé, mais j'avais des prints là-bas. Du coup, dans cette expo-là, et c'était autour de ça, voilà, de l'érotisme et des tentacules.
Chouette programme.
Ouais, enfin, oui. Non, c'était cool.
Alors, question numéro 2. Je suis une collection de romans policiers inaugurés.
Le poulpe. Ah, facile.
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 Bon. Je suis caissier au crabe croustillant.
Carlos.
Voilà, Carlo Bob le calamar, Carlo tentacule, Bob éponge. Voilà, bravo.
Oh mince, oh oui.
Alors, plus dur. Je suis un titre de film japonais, je suis un catcheur particulier.
Ah, je l'ai en plus. Oui. Ah, ça va. J'ai le DVD à la maison. Là, il y a Chloé qui, si elle est en train d'écouter, il me dit mais qu'il est con.
Et là, tu regrettes pas de pas avoir téléphone pour
Il y a Calamari dedans.
Ouais.
Calamari ouais. Wrestler.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
Oui. Exactement.
Ah oui, ah oui, bah oui.
Allez, spécial dédicace à Xavier. Alors, bon, si t'as la réponse, tu dis pas. Je suis un comique, acteur et chanteur issu des web-séries officiant sur No Life.
Oula.
Et membre du groupe Les Rois de la Suède, souvent en duo avec Davy Mourier.
Bah, le Poulpe, non?
Ouais, c'est Monsieur Poulpe.
Monsieur Poulpe, oui,
voilà.
C'est ça, ouais.
Ah bon,
oui,
j'ai mis une étiquette hard dessus.
Ah oui, là, je pouvais pas.
Sinon, dernière question. Je suis un méchant dont on ne voit jamais que les gants. Je pratique le crime dans Central City. Créé par Will Eisner.
Le Spirit.
Oui, mais le méchant.
Je suis le méchant.
Ah, le méchant, ouais.
Ah oui. Mon adversaire n'est autre que le Spirit, du coup. En lien avec le thème du quiz. Hein. Ah, dur.
Ah,
oh. Oh, il a de l'antichèche.
Non. On me dit que Adobe CS2 n'est pas offert ou gratuit, mais il est proposé facilement pour les clients.
Ok, allez.
rien à voir.
Le nom du méchant, la pieuvre.
Ah ouais.
Je m'appelle la pieuvre.
Oh. Ah ouais.
Bon, et voilà, ça va. Tu te débrouilles bien en tentacule.
Ouais, non, je suis pas. Après, c'est. Je pensais que t'allais me poser des questions de zoologie. Là, c'est vrai que j'aurais pu caler assez vite. Quoique, je suis quand même pas si ignare que ça en la matière, bizarrement.
Allez, un petit coupure musicale.
Bah oui.
Niveau 2.
Niveau 2. Allez.
Bon,
alors, c'est quoi
le. Je vais choisir une seconde fois.
Alors, c'est qui le groupe?
Ah, les Cramps.
D'accord. Et le morceau.
Alors, ça c'est un disque spécial hein, parce que c'est sorti sur le label des Cramps quoi.
Ouais.
Hein, c'est autoproduit quoi donc et on va et c'est les concerts qu'ils avaient sortis.
Donc le son est dégueulasse. Hein,
le son est pourri quoi vraiment et c'est sorti avant la sortie du premier disque des Cramps enfin ouais. Les concerts hein, du moins quoi. Alors donc, on va se mettre. Je sais même pas quel disque je t'ai filé parce que c'est un double. Alors
c'est un double. Il y en a où il y a un son à peu près potable et l'autre non.
Ah. Ouais, bah écoute, on va pas s'emmerder longtemps. On va mettre le numéro 3 hein, qui est un des grands tubes qu'ils ont sorti. Une reprise
les
comme d'habitude.
Ils ont sorti des tubes. Merde, j'étais pas au courant. Ah,
pour moi oui.
Oui pour toi oui. Oui pour moi aussi mais.
Sunglasses left and dawn. say about this?
Sur FMR 89.1 MHz, c'est 13h16, c'est le supplément week-end avec Serge Biro.
Alors on parlait de ta muse tout à l'heure. Alors comme tu travailles beaucoup à partir de son visage, à partir de photos, comment est-ce que tu gères justement le fait de travailler beaucoup à partir de ça, et est-ce que tu n'as pas peur de te lasser, de lasser ton public?
Alors comment je gère ça? Alors en général, vu que je suis un très 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 mauvais photographe, vraiment très mauvais, j'en fais plein, et j'essaye de faire un mix de tout. Généralement les modèles que j'ai, mis à part Chloé, je les ai pas en face, c'est pas moi qui fais les photos, donc vu que je veux pas copier de photos non plus, j'essaye de retrouver la physionomie de la demoiselle, enfin au moins pour le visage, parce que c'est le seul truc pour lequel j'ai des refs. Donc j'extrapole un peu entre tous les shoots que j'ai pour essayer de refaire. Voilà, je fais un peu pareil avec Chloé. Et après, je sais pas si ça peut lasser, parce que d'un autre côté, après je fais quand même pas mal de trucs super cartoon. Voilà, j'essaye de diversifier un peu, d'avoir des rendus différents aussi de temps en temps. Mais après j'aime bien bosser comme ça, parce que j'aime bien avoir des modèles en fait. Parce que ça me motive pour bosser, tout simplement. Le fait d'avoir un truc à offrir à quelqu'un, en fait. C'est au moins pour les boulots perso. Après, professionnellement, c'est le fric hein, qui motive à bosser. C'est pas le problème, mais après, pour moi, pour avoir un minimum de production personnelle, c'est voilà, me dire je vais faire plaisir à une telle ou à une telle. Voilà. Et c'est vrai que, mis à part Chloé, il y a Maria en Suède, voilà, qui est mon modèle fétiche un peu. Et elle, je sais que ça lui fait super fétiche, plaisir. Ouais, ça pourrait marcher aussi, ouais. voilà, il y a son anniversaire dans 2 jours, donc là, il faut que je finisse son dessin pour son anniversaire. Bon, voilà, je sais que ça, voilà, c'est une bonne motivation pour moi pour essayer de faire un truc. Et vu que j'ai pas énormément d'imagination, c'est sans doute pour ça que je fais des pin-up, c'est pas mal d'avoir... ça me donne une référence aussi pour savoir quoi peindre en fonction des goûts de chacune, voilà, ce qu'elles aiment. Donc on papote généralement quand même un peu avant que je fasse les dessins, voilà. Voilà. Mon modèle le plus délicat, oui, c'est Chloé, parce que bon, déjà, elle est au niveau critique, elle est un peu plus hardcore que les autres. Et puis parfois ça l'emmerde aussi, parce que là sur la couverture du bouquin, ça l'emmerde d'être sur la couverture du bouquin finalement, parce qu'on la reconnaît, donc là ça... Voilà. Et Hubert Delartigue m'en a fait une bonne au workshop de Café Salé. Je sais pas si vous connaissez Hubert Delartigue.
Si, oui.
Donc il dit « Ah, salut Serge et tout », et puis il voit Chloé, il fait « Ah, mais t'es venu avec ta modèle !» Et là, Chloé la regarde méchamment, il dit « Non, je suis sa femme
!» Voilà. Alors justement, vous avez prévu quoi en cas de divorce? Je lui laisse pas le temps de rallumer son truc.
On a pas prévu le divorce en fait.
D'accord.
Merci Xavier, c'est super.
Donc Hubert Delartigue, puisque on parle de filles dénudées sur un thème fantastique, SF ou SM, peintes d'une manière ultra réaliste, c'était naturel que vous rencontriez. Y a vraiment un respect mutuel.
Ouais, alors lui visiblement il est
non,
très
non,
fan.
Il se
alors
cordialement.
Je suis assez épaté parce que en plus lui ce qu'il fait je le connais depuis super longtemps parce qu'il faisait des trucs vous devez connaître parce que vous êtes des vrais geeks mais.
Oh lui
il
surtout.
Il faisait des trucs pour Cassius Belli.
Oui.
Il y a très longtemps.
Il a aussi fait des couvertures pour Folio SF si
oui,
je me trompe.
Exactement. Donc voilà, depuis ces années-là, je connais ce qu'il fait depuis ces années-là, donc c'était assez rigolo, voilà. Ben là, on se voit quand même assez régulièrement, parce que je vais assez souvent à Paris. Et là, je suis en rapport avec Drew Blair, qui est le grand ponte de l'aérographe mondial en ce moment. Donc je les ai mis en contact, et Drew Blair doit passer à Paris dans quelques mois, donc je vais les faire se rencontrer tous les deux, donc on va faire une réunion... Voilà, donc je me suis invité au milieu parce que là je suis au milieu de deux monstres quand même, donc ça va être cool.
Ah oui, quand même.
On va revenir à ta femme quand même parce qu'on lâche pas le morceau. Comment ça se passe quand tu travailles avec tes autres muses ? Est-ce que tu es de corvée de vaisselle ? Est-ce que tu dois une illustration pour compenser ?
C'est difficile ça comme question. Non, elle est pas jalouse pour deux sous. C'est juste que puis elle, je crois que depuis le temps elle est rodée quand même. Et surtout que j'ai prévenu au début. je suis désolé, je dessine quand même pas mal de filles à moitié à poil. J'ai parfois des modèles et puis voilà. Donc elle sait très bien en plus que. Pour moi, c'est vraiment du boulot, quoi. J'ai pas de fantasme particulier sur telle ou telle nana. Moi, mes goûts diffèrent vraiment de ce que je dessine, en plus, généralement. Donc, Maria, elle a un visage qui est complètement hallucinant à dessiner. C'est,
quoi, ça veut dire que le teint de porcelaine, le reflet, comme si c'était...
Maria, c'était vraiment, au niveau visage, au niveau volume sur les visages, elle est hallucinante à peindre. Elle est super difficile à peindre. Et c'est justement pour ça que c'était intéressant la première fois où je l'ai vu, je me suis dit, ah, celle-là il faut que je la dessine. Et voilà, c'est plutôt elle sait que c'est plutôt dans ce sens-là, c'est plutôt voilà, parce que ça correspond plus à mon style de dessin qui correspond pas du tout à mes goûts perso de toute façon quoi. Donc non. Voilà, je suis pas scorvé.
Ça risque de surprendre beaucoup de tes fans. Tiens, ça, on le mettra en exclu aussi.
Non, mais quand je dis généralement, plus je suis pas du tout attiré par les gros seins, généralement tout le monde dit bon. Ça fait beaucoup rire Fred Beltran, ça aussi.
On est très surpris.
Ah oui, lui
ouais.
Aussi, tiens.
Mais non, parce que en plus, je lui ai dit, bon, c'est vrai que je pense. Au moins pour cette partie-là, mes deux principales influences c'était Meister et Beltran pour cette partie-là. En plus, moi je fais presque comme lui, c'est-à-dire c'est presque des sphères, quoi. Beltran fait pareil. Hein. Et je lui disais, non, moi je suis désolé, mais c'est pas... Enfin, moi c'est pas ma tasse de thé du tout, c'est pas du tout ce qui m'attire. Bon, c'est plus rigolo à peindre, voilà, c'est tout.
D'accord. Pour quel type de clientèle est-ce que tu travailles et quel est le niveau de modification demandé par tes clients en fonction des domaines ? Alors, tu as fait les couvertures d'albums musicaux, tu as fait de la pub, tu as fait des mascottes, tu as fait des couvertures de jeux.
Après, je bosse pour le jeu vidéo en ce moment, pas mal. J'ai fait beaucoup de character design pour l'animation, pour les enfants, bizarrement. Donc, généralement, c'est des trucs que je montre pas parce que. Mettre des trucs pour les gamins à côté de mes pin-up dans les portfolios, ça fait un peu bizarre. Et pour tout ce qui est jeux vidéo, généralement j'ai pas le droit de le montrer, donc voilà, ça résume assez vite. Mais là en ce moment je bosse pas mal dans le jeu vidéo. Et c'est, bon.
Et là où ils sont le plus casse-pieds, les allers-retours.
La pub.
Ouais.
Parce que c'est là où les budgets sont les pires et les délais sont les pires.
Et où le demandeur, c'est pas l'équipe de créatifs qui est derrière qui a fait appel à toi.
Ouais, mais ça c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'on bosse souvent pour des intermédiaires en fait. Même dans le jeu vidéo, généralement je bosse pour des jeux. Je sais même pas pour quel jeu je bosse. Les mecs ils sont tellement. Déjà on est sous NDA donc on a absolument pas le droit de dire qu'on bosse pour telle ou telle boîte et on sait même pas. On bosse pour des boîtes intermédiaires, je sais même pas pour quel produit c'est,
donc,
au final c'est.
NDA c'est Non-Disclosure Agreement, donc par contrat on doit rien dire.
Voilà, donc.
T'en as déjà trop dit.
Comment ?
Tu en as déjà trop dit là.
non, ça tout le monde au courant que ça fonctionne comme ça, mais. Voilà, après les clients les plus chiants c'est les clients français, donc voilà, je travaille pas pour des français généralement. tout simplement.
D'où les communautés anglophones.
Voilà, ah ouais, non, les clients, enfin pour, je le dis à mes étudiants aussi, éviter les clients français, quoi, point. J'ai eu un problème avec tous mes clients français, tous. Généralement pour être payé, hein, évidemment, mais pas de contrat, vous avez rien, vous savez pas quand est-ce que vous êtes payé une misère souvent. Il faut râler pour tout. Je suis obligé d'aller chouiner à chaque fois pour avoir mon argent, donc j'ai voilà. Éviter les clients français.
Ok.
D'un autre côté, donc tu publies énormément sur internet et tout ça. Moi, je l'ai vu. J'ai vu arriver des graphistes qui débarquaient à leur entretien d'embauche et qui disaient ah oui non mais ça c'est moi qui l'ai fait et tout, des trucs qu'ils ont insérés sur lesquels ils ont juste appliqué un effet en supposant que ça va pas trop se voir. Quand tu es face à des plagiaires ou des gens qui prétendent avoir réalisé tes œuvres, ça se passe comment? Coup de boule ou lettre d'huissier?
Non, ça me fait rire généralement.
et en plus ils te reconnaissent pas du coup.
Non, alors quand c'est les seuls moments où ça peut poser problème, c'est à partir du moment où ils gagnent de l'argent avec. Voilà. Ça m'est pas arrivé souvent, ça m'est arrivé une fois et c'était en République Dominicaine, donc je me voyais mal aller envoyer un huissier en République Dominicaine. Et encore, je pense que le mec a pas.
Pas rendu compte.
Non, je pense qu'il a surtout pas gagné énormément. mais le plagiat était tellement mal fait en plus que c'était. Ça en était drôle quoi. Mais j'ai un dossier plein, j'ai des centaines d'images de plagiat, de machin, je les garde. Parce que généralement ça me fait rire plus qu'autre chose, mais généralement c'est plutôt des gamins sous des DeviantArt ou des trucs comme ça, c'est pas... Voilà, ça porte pas à conséquence. Faut arrêter un moment, de toute façon quand vous postez vos images sur internet, quand je vois tous les auteurs en train de chouiner que leur image a été reprise pour faire des cartes de vœux en gif animé toute pourrie, vous postez sur internet, vous savez que votre image vous appartient plus. Donc à un moment faut faire un choix. Moi je poste quasiment que des images c'est aussi pour ça que je poste quasiment que des images perso, à moins d'avoir spécifiquement le droit ou que ce soit prévu comme ça pour Sony ou des trucs comme ça. Ça fait même partie du deal, c'est à dire que à partir du moment où on sait que vous pouvez faire de la promo au produit par le fait que ce soit vous qui fassiez le truc, ça peut se prévoir comme ça aussi, mais généralement vaut mieux poster que ces trucs perso, comme ça au moins y a pas de problème légaux de trucs comme ça. Et quand vous postez votre propre image, vous imaginez bien qu'elle sera réutilisée à droite à gauche pour faire des posters, pour des soirées, voilà, j'en ai retrouvé dans tous les sens. Mais ça porte pas à conséquence à partir du moment où les gens se font pas un blé monumental dessus, quoi.
Pour faire la veille, c'est toi qui t'en en charge?
Non,
les gens
je fais pas de veille.
Non?
Je fais pas de veille, généralement c'est les gens qui reconnaissent les trucs, qui m'envoient le lien, et puis généralement j'en fais rien, parce que je... Voilà, à part si la personne en question s'est fait de l'argent avec, mais bon, ça arrive quand même pas très très souvent, quoi.
Il a été question au moment que tu fasses de la bande dessinée.
Ouais.
Il y en a qui le font avec ce genre de rendu.
Ouais, non, mais c'était pas trop un problème de rendu. J'avais même un très bon scénariste qui m'avait fait le scénario. On n'aurait pas eu de problème pour se faire éditer non plus. C'était pas trop la question. C'est que ça prend... C'est très chronophage pour utiliser un terme qu'on connaît. Hein? Voilà. Ça prend énormément de temps, donc. Et c'est absolument pas rémunérateur. Faut être clair. Voilà, il y en a qui peuvent témoigner ici. voilà, non, la BD, là, et puis c'est de pire en pire. J'ai quand même pas mal de potes qui bossent là-dedans et qui ont du mal à en vivre, quoi. Alors que. Bon.
Quitte à faire de la pin-up, t'as eu des commandes de Dassault ou.
Non. Non, non, j'ai pas eu de... Bizarrement, j'ai pas eu très souvent ça parce que. Ça...
Parce qu'après tout.
Oui, non, ça aurait
du pu matériel être... militaire tout neuf, etc. Un illustrateur comme toi qui réalise.
Ça aurait pu. Non, ça pourrait m'amuser, ça, ou ressortir un vieil aérographe pour faire ça. Mais je faisais ça quand j'ai fait des. J'ai déjà peint sur des camions, hein, donc. à l'aérographe, bon.
Avec non, les trois loups qui hurlent à la lune et tout
ouais,
ça.
Ouais, c'était pas loin, ouais. La tête d'Indien, le coucher de soleil.
Ah ouais,
non,
ouais.
Mais refaire ce genre de truc, maintenant, je trouverais ça assez rigolo, ouais, mais non, on m'a pas... en tout cas, j'ai jamais vu en vrai, non.
Quels sont les projets à venir, justement? Est-ce que tu restes dans la pin-up, enfin, en dehors des trucs que tu n'as pas le droit de montrer, que tu n'as pas le droit de parler? On a vu que tu avais fait des essais aussi sur du cartoon que tu as montré un peu avec la petite fille, avec le violon, par exemple, sur ton artbook.
Ouais.
Et c'était... Enfin,
ah, mais là, j'ai eu une demande comme ça, directe du client, qui m'a dit « On veut un truc qui n'a rien à voir avec ton style. »
Mais alors, on fait l'appel à toi, quand même.
Voilà. Oh, c'était un magasin de musique classique suédois, donc vraiment un truc un peu improbable. Et en fait, à la base, il m'avait proposé pour faire un truc très, très détaillé, très réaliste. Et au milieu des propositions que j'aurais faites, j'aurais glissé ça et tout le monde a dit « mais voilà, il nous faut ça ». Donc moi, ça m'a fait plaisir parce que ça me permet de... Généralement, on me demande toujours la même chose, on me demande des trucs très détaillés, très précis... donc là, ça sortait vraiment du cadre, donc ça m'a fait plaisir de faire ça. Et puis, ouais, c'est quand même bien de changer de style de temps en temps. Mais moi, après, ce genre de truc-là, j'en fais souvent, en fait, bizarrement. Je le montre pas non plus énormément, mais c'est vrai qu'au moins pour le chara-design de dessin animé, je m'en rapproche plus de ça que de ce que je fais d'habitude, quoi. Mais voilà, et après, j'ai pas trop l'occasion de montrer ce genre de choses non plus. Et pour mes projets en cours, j'ai beaucoup de cours, beaucoup de workshops, donc je vais travailler, comme un peu l'année dernière, je passe mon temps à voyager, là, je fais...
Allez, fais-nous rêver, là, c'est Tintin à travers le monde, allez, vas-y, oui.
Bon, c'est pas que professionnel, mais là, dans les deux mois qui suivent, je fais, Paris, Berlin, Madrid, Moscou, Londres.
Pas mal. Voilà.
Et dans l'année, en théorie, je retourne au Mexique, mais ça, c'est pas encore sûr. Et le Brésil, et c'est pas encore sûr. Voilà.
Il est 13h30 sur Radio FMR. Sushi est là. Est-ce que tu as une question à poser? Je sais, on t'a pas montré le artbook en soi. Elle voit juste, en fait, une partie de ta galerie sur DeviantArt.
Alors attention,
parce que une émission entre mecs et tout ça, mais au moins, justement, que les filles aussi aient le droit de poser des questions.
Juste un message, attention, Sushi, parce que quand ça finit en sushi en calmar dans ses illustrations, c'est que ça a un peu souffert avant, ça finit manger à la baguette. Hein.
Non, j'ai pas forcément de questions et j'aurais peur de répéter tout ce que vous avez dit avant, je sais pas, mais peut-être la principale, c'est... D'accord. Non, il montre une femme sur un tank, ou je sais pas.
un
poulpe tank. Non, la base, c'était juste comment tu en es arrivé là, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de...
Comment es-tu arrivé là?
Non, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner et de peindre?
À
la base, quand t'étais jeune, t'as trouvé que t'étais fort, et puis tu t'es dit pourquoi pas.
Playboy!
Bizarrement,
mes premières inspirations, moi, c'était... plutôt la peinture classique, mon peintre préféré c'est Ingres. Je reviens du musée d'Ingres en Montauban. Voilà. Mmh. Et c'est le premier peintre qui m'a tapé dans l'œil, donc au niveau couleur d'ailleurs, c'est toujours ma principale influence. Après, les trucs qui m'ont vraiment motivé, je pense que c'est plutôt un hasard, mais c'était plutôt dû au rendu. Moi, c'était Sorayama. Donc tout ce qui était très aérographe, métal, plastique, donc on était dans les années 80, donc forcément c'était tube néon, plastique qui reflète et chrome.
Alors on va vers l'univers hard un petit peu.
Après au niveau du sujet, c'est vrai que c'est beaucoup plus trash que ce que je fais moi, hein, c'est pas... Mais la première fois où j'ai vu ça au niveau réalisme, c'était... quand j'ai vu ça, j'ai dit je veux faire ça, voilà. Je me dis mon but dans la vie, c'est quand je serai plus grand, je veux arriver à faire ça. Et ça reste même maintenant, ça reste ma principale, il reste ma principale influence, tout ce qui est technique et tout ça, j'ai tout piqué chez lui, voilà, c'est ma principale source d'inspiration.
Et tu l'as déjà rencontré ?
Et non, j'ai pas rencontré.
Non, il disait ça au début de l'émission tout à l'heure. C'était le seul.
T'as pas suivi, hein ?
Donc, je suis désolé. Attends,
on parlait de Droubler tout à l'heure, donc en papotant avec Droubler, Droubler m'a dit j'étais avec lui la semaine dernière, donc je lui dis écoute, la prochaine fois que tu le vois, tu essayes de lui casser une ou deux de mes images, parce que ne serait-ce qu'avoir un retour de lui, ça, voilà, savoir ce qu'il pourra en penser. Je m'étais dit que ça arriverait peut-être, mais en fait il vient de découvrir le portable, hein. Il est un peu comme moi, Sorayama. Sauf qu'il est un peu comme ça avec internet aussi, donc il va jamais sur internet.
C'est pas se géolocaliser non plus.
Voilà.
Oh là là. Bon, donc... je sens qu'on va enchaîner, parce que sinon... Et rapidement sur la télé, du coup, puisque il y a une interview qui est prévue, d'après ce que j'ai compris.
Non, on va dropper la télé, hein, de toute façon, quoi.
D'accord. Ok.
Et bien, après avoir parlé de geekerie, donc ça va être une page sportive juste après, alors, du coup. Si on
oui, on aura en ligne Mathieu Chauvet, l'entraîneur du TMB, le Toulouse Métropole Basket, qui joue ce soir contre Perpignan.
D'accord. D'ailleurs, Serge a fait une mascotte pour un club de roller toulousain, c'est ça ?
Ouais. Et là, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'ils ont créé une nouvelle équipe, et ils les ont appelés les Iron Squids, exprès pour moi, donc je pense que c'est exprès pour que je fasse le logo à l'œil aussi, mais bon. Mais sur le coup... Non, sur le coup, ça m'a fait plaisir, ouais. Non, c'est... je vais devenir un fervent supporter de cette équipe-là. Ouais, ouais, roller derby, ouais.
Ouais, dans ton artbook, il y a également plusieurs illustrations avec le petit Lemmy. Oui. T'es fan de Motorhead, à mon avis, ça c'est clair.
Voilà, ma femme aussi.
Ouais. Lemmy est au courant, est-ce qu'il a vu ces images?
Je sais pas.
Eu des retours,
Je sais pas, c'est. Il y a visiblement des gens lui ont fait passer, mais lui c'est pareil, Internet il sait pas ce que c'est visiblement. Donc,
Ok. Hein.
Donc j'ai pas eu de retour, je sais pas. Voilà, mais ça aussi, je pense que ça me ferait vraiment plaisir. Mes gosses sont toujours persuadés que le petit mec sur la croix c'est Lemmy hein, quand même. Hein. Donc il y a des tableaux. De... voilà. Il y a des posters de Lemmy partout chez moi, ma femme est carrément en admiration, moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, mes gamins sont toujours persuadés que le petit Jésus s'appelle Lemmy.
Ah ouais.
On essaie de leur expliquer que non, mais pour eux, ils voient un monsieur barbu avec les cheveux longs.
C'est papa.
Ouais. C'est, voilà, non mais après c'est pas pour rien que je me laisse pousser la barbe, je suis obligé de me laisser pousser la barbe.
Ouais, voilà. Mais il te manquera toujours les bouts de cheveux sur la joue.
Ouais, ouais. J'espère que, d'un autre côté, malgré tout, il est encore vivant, ce qui est quand même dingue.
Ouais, oui.
D'où l'adage, si vous adorez quelqu'un pour son travail et qu'il vous a inspiré, remerciez-le assez vite tant qu'il est encore vivant. Voilà. Surtout Lemmy d'ailleurs.
Oui, là c'est vrai que sur les... j'ai vu en concert il n'y a pas très très longtemps, je pense que c'est la dernière fois que je le verrai là, parce que là il commence à fatiguer un petit peu, ça se voit là, mais bon.
Bah il va jouer assis comme beaucoup d'autres,
il n'y a pas de problème. Je suis pas
sûr. Hein. Il va faire du blues.
Une petite... Il en fait déjà.
Il en fait déjà.
Une petite question, là on va s'abrir, tu vois.
Okay.
Une petite question, est-ce que tu connais ton Lemmy par cœur? Quel était le tout premier groupe de Lemmy?
Avant Hawkwind?
Avant Hawkwind, ouais, bien sûr.
Ah.
Eh ben.
Ah bon, bah, pas mal.
Ah oui, j'ai souvenir de la photo. J'ai l'image de la photo de ce groupe-là en tête, donc en Angleterre, hein,
ouais,
on est bien d'accord.
Ouais, ouais.
De la coupe de cheveux de Lemmy, ce qui m'avait quand même traumatisé, mais
ouais,
le nom. J'arrive pas à m'en souvenir.
Ah, les Knight Riders.
Les Knight Riders.
Oh là là!
Oh, il a vu le documentaire sur Lemmy aussi, c'est ça?
Non, j'ai pas encore vu ce documentaire.
Ah, il faut le voir, vraiment bien.
Non,
vraiment
non,
très bien.
Non, moi, je suis plus livre que...
Contrairement à ce que l'on pourrait croire.
Alors, pendant qu'on nous fait signer en régie, qu'on nous prépare une question à poser à Serge tout à l'heure, on va commencer à rappeler justement les références de notre invité de luxe aujourd'hui. Donc, c'était Serge Biro, donc pour le l'artbook Corpus Delicti, qui est sorti chez Café Saling, c'était en automne, hein, c'était en septembre-octobre, je me semble. À la rentrée.
Je sais plus, 15 octobre.
Oui, voilà. C'était à la rentrée, en tout cas. Ah, la question arrive. De qui Lenny a ôté le Vaudi?
Ah, d'Hendrix.
Ok, bon. Mais,
je connais quand même mon Lemmy un petit peu.
J'ai rien
peu,
compris
ouais.
La question, j'ai rien compris la réponse.
Lemmy a été le Roddy d'Hendrix.
D'accord.
Qui portait les caisses d'Hendrix. Voilà.
Okay. D'accord, ok.
Voilà, donc c'était Serge Biro dans le supplément week-end, l'émission de 335 d'ailleurs.
Qui donc était assez intégralement consacré au gros bonnet à finition métal lustré.
Voilà, donc on aurait aimé te recevoir pour la 666e, mais
ouais.
je crois que t'avais...
Non, mais il y a du monde aussi, hein.
Voilà, oui. Donc voilà, donc on va laisser la place à l'émission de sport. Ça c'est du sport, présenté par Sushi et du sport, juste après nous.
Sushi qui va tester une spécialité alsacienne. Gaffe, ça plombe avec ça, tu vas pas manger d'ici ce soir. C'était donc...
les préjugés de suite.
Une émission qui était, je veux dire, relativement lourde pour notre dossier auprès du CSA. Peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont écouté en diagonale?
Non, j'ai passé l'émission à manger des chips, en fait. Donc voilà, on avait Serge Biro en invité. Et,
à manger des chips.
On a appris qu'il y avait de l'Adobe. Il y avait des problèmes d'école. Voilà, il y avait des... Ah, il y a Sushi qui fait une drôle de tête en mangeant de la spécialité alsacienne. Voilà, donc on vous laisse.
Il est très très bon, merci. Nom d'une pin-up. Voilà, nom d'une pin-up en latex, cuir, métal et gros bonnet. Vous avez manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites. Laissez vos commentaires, posez vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Vous trouverez même le lien vers le blog de Du Sport.
Hey, c'est bien.
Eh oui, vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Oui, hop. Et merci d'ailleurs à Prog Musical pour l'assistance de Mika. Je lui rends le CD. Voilà. Et ça nous fait toujours plaisir, en tout cas, d'avoir des auteurs en direct et en plus des amis. Dans le prochain épisode, l'approche d'Angoulême. Avec peut-être une interview d'un auteur japonais, je sais pas encore comment on va se
débrouiller. Oui. D'ailleurs, il y a. Oui, on va en parler en off, mais oui, il y a quelques interviews qu'on doit absolument caler avant le festival d'Angoulême.
Ça va être méga chaud, ce qui veut dire qu'on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Ah, oui. Ciao, bye bye, de suite, Duce.